Vous avez vu que le thème de notre convention, c'était utopie et dystopie. Dans les extraits des films de science-fiction, on voit souvent de la dystopie. On se faisait la remarque avec Kirel à l'instant. Mais en fait, évidemment, il y a de l'utopie et on peut utiliser, heureusement, les technologies dans le bon sens. Et en l'occurrence, là, on va avoir un aperçu d'une discipline qui, elle, permet justement d'utiliser les nouvelles technologies dans le sens un peu plus positif de l'utopie. Et donc, pour cela, je vous demande d'accueillir Kirel Benzi et de l'applaudir très fort. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ADIRA pour m'avoir invité. Alors, je sais qu'on est dans un cinéma et que, en fait, c'est très confortable d'être dans les sièges. Donc, on va essayer aujourd'hui d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus interactif. C'est pour ça que j'ai mon téléphone. Donc, je ne regarde pas mon flux Instagram. Hein, c'est vraiment pour la présentation. Et ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, maintenant qu'on connaît le Covid, donc on sait comment scanner un QR code, c'est que vous puissiez, avec votre téléphone, scanner et qu'en temps réel, en fait, vous puissiez interagir avec moi dans la présentation. Et on va voir, il y a quelques surprises, je vais poser des questions et puis il y aura des choix à faire. Donc, si je vous lance une des premières questions, normalement, en temps réel, vous pouvez toujours scanner le QR code à gauche. Et si vous votez, normalement, en temps réel, voilà, on va avoir les résultats. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite présentation pour éviter de s'endormir, parce que bon, c'est très confortable ici. Et j'espère que le sujet va vous plaire. Donc voilà, si est-ce que ça va pour tout le monde ? Là, ça se passe bien ? Sinon, ok. Donc voilà, vous pouvez toujours voter en fait. Moi, tant que j'ai laissé la question, elle va pouvoir continuer. Et puis voilà, on va avancer dans la présentation. Donc rapidement, juste pour me présenter, voilà, je m'appelle Kirel Benzi, j'ai deux professions en fait. Je suis à la fois chercheur en intelligence artificielle à l'EPFL. Donc l'EPFL, c'est à Lausanne, c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et j'ai un autre job qui est, ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, c'est le côté data art. Donc je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc du coup, je vais essayer de vous emmener progressivement pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le data art, en quoi c'est différent de la visualisation de données, et puis vous montrer des exemples, en espérant que ça soit, comme on disait, plutôt sympa et pas très dystopique. Parce que voilà, on est quand même, j'espère, de laisser une trace un peu plus positive que Black Mirror. Donc juste pour vous donner une idée, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc ça, c'est une vraie photo, hein, c'est pas juste pour la présentation. En fait, quand j'étais en thèse, les gens me demandaient, tiens, sur quoi tu travailles ? Et moi, naïf, comme j'étais, je me suis dit, bah tiens, je vais t'expliquer. Je vais au tableau, je commence. Donc ça, c'est un vrai tableau que j'ai fait après une présentation à un ami. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste par courtoisie, qu'en fait, tout le monde s'en foutait de ce que je faisais. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est dommage, parce que c'est quand même intéressant, enfin, pour moi, ce que je faisais, mais il manque un côté visuel pour pouvoir expliquer ça de manière plus tangible et que ça parle aux gens tout de suite. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de commencer à s'intéresser à la visualisation de données ? Et donc, du coup, ou DataViz. Donc, du coup, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que DataViz, est-ce que ça vous parle, en fait, déjà ? Donc, on va voir ensemble. Est-ce que ça, si je vous dis DataViz, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Comme c'est une conférence avec un public qui est quand même dans la tech, voilà, je pense qu'il y a quand même aussi des gens qui connaissent. Donc là, c'est assez partagé. Vous pouvez aussi modifier votre réponse. Hein. Vous pouvez éditer si jamais maintenant vous savez ce que c'est. Enfin, vous pouvez changer d'avis. Mais on voit que, ok, donc il y a, c'est assez marrant. D'habitude, il y a quand même soit des gens qui connaissent, soit des gens qui connaissent pas du tout. Là, on a vraiment la moitié en gros qui connaissent pas bien. Donc du coup, je vais essayer de faire rapidement et d'expliquer en gros ce que c'est. La visualisation de données, c'est ça en gros. C'est essayer de transformer donc de la donnée, typiquement un tableau Excel, en graphique qui soit facile, ça c'est important, à interpréter sans qu'il y ait vraiment un grand effort cognitif. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive, je vois ce qu'il y a à droite, ça doit, avec un petit peu d'entraînement, ça doit me parler assez rapidement. J'ai pas besoin de faire un effort pour arriver à lire mon diagramme en bâton, mes lignes, etc. Donc le premier but, c'est de communiquer. Je veux pouvoir communiquer les données que j'ai de manière plus facile. Je peux être aussi exploré. Typiquement, dans la recherche, on n'a pas encore les graphiques. On ne sait pas. Quand on travaille sur un nouveau jeu de données, on est d'abord obligé d'analyser ces données, ensuite de créer des graphiques, de pouvoir en discuter et d'avoir une espèce de cercle vertueux à partir de la visualisation. Donc on peut dire que, En gros, la visualisation de données, c'est pour essayer de développer notre cognition sur un phénomène. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent ? Ok. Alors, si on passe maintenant à, petit exemple, vous connaissez peut-être ce logiciel qui s'appelle Tableau, c'est un peu le leader dans la DataViz. La plupart des logiciels, ça marche comme ça. J'ai mes colonnes, je fais un drag and drop et il va me créer comme ça mes petits plots. Et le problème de ça, alors c'est très pratique pour tout ce qui est business intelligence, etc. Le problème pour moi, c'est que il ressemble plus à un plot comme ça, un graphique comme ça, se ressemble un petit peu tous. Donc comment faire pour essayer de le rendre un peu plus personnalisable et qu'on ne soit pas un petit peu ennuyé ou même pire, d'avoir une espèce de lassitude parce qu'on voit toujours des mêmes graphiques avec toujours les mêmes couleurs, etc. Et du coup, ça n'a plus vraiment de sens de regarder les données. Donc en gros, est-ce qu'on peut arriver à travailler sur l'impact ? Donc pour moi, il y a deux techniques. C'est d'appuyer dessus, ça marche. Voilà. Comment faire pour avoir de l'impact ? En bon français, on peut aller manifester. Pour essayer de faire changer les choses, brûler des poubelles, voilà, c'est typique. Ou on peut aussi essayer de travailler sur quelque chose moi, qui était un peu plus personnel. C'est-à-dire essayer de se regarder dans le miroir et dire comment on fait pour essayer de toucher les gens et quelle est une des façons de faire. Donc pour moi, j'ai choisi le côté artistique. Parce que l'art, soit on aime, soit on n'aime pas, mais si ça nous touche, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience quand vous êtes déjà allé dans un musée sur n'importe quel style d'art, si un tableau vous parle, il y a une réflexion qui arrive et ça peut potentiellement nous donner envie d'aller plus loin, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et je trouve que ce moyen est, à mon avis, plus intéressant que d'essayer d'imposer une idée en disant « je vais aller manifester », par exemple. C'est très personnel, hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour transformer la visualisation de données en quelque chose d'un peu plus artistique ? Qu'est-ce que ça veut dire et comment on amène ça ? Donc, c'est un peu tout l'objet de la conférence. Donc, qu'est-ce que c'est déjà ? Faisons une petite définition en anglais, enfin, en français, data art. Je ne suis pas sûr qu'on traduise art des données, mais je pense que c'est mieux data art. Le but ici, ce n'est pas d'être le plus efficace dans la compréhension des données à premier abord. Le but, ce n'est pas de faire un diagramme en bâton. Le but ici, c'est d'abord d'essayer de donner de l'émotion. Pourquoi donner de l'émotion ? Parce que si je trouve ça esthétique, intéressant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Donc, je vais pouvoir après aller lire, par exemple ici, tiens, je vais lire la description, comme un tableau. La différence entre l'art classique et le data art, c'est que ma description de mon tableau, elle n'est pas purement subjective. Ce n'est pas que moi, artiste, qui a décidé d'écrire ce que je veux, mes 7 pages de ChatGPT pour décrire mon tableau. Ça va être quelque chose d'un peu plus objectif, puisque c'est basé sur des données. Donc du coup, normalement, si on est intéressé par l'histoire des données, potentiellement, on peut même avoir changé d'avis sur le tableau. J'aime beaucoup cette œuvre, par exemple, visuellement, mais en fait, en lisant les données, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais cette différence, je trouve qu'elle est assez intéressante à explorer. Et encore une fois, le but à la fin, c'est de développer la cognition sur les données, le dataset qu'il y a derrière. J'espère que c'était clair jusqu'à présent. On va essayer maintenant de parler avec un exemple concret. Avant ça, je vais juste vous parler du process, comment on fait pour designer ça. Alors, je ne sais pas si vous avez du coup de l'expérience avec la DataViz, mais c'est en fait, ou du design en général, c'est vraiment la même chose. Ça va être, on n'a pas directement la solution sur le tableau, et en plus, c'est très subjectif, ça dépend de quel message on veut faire passer. Donc, ça va être, est-ce que c'est une œuvre, est-ce que c'est une image, est-ce que ça va être une vidéo, est-ce que ça va être une œuvre interactive, et je vais essayer de vous montrer différents exemples. Est-ce que c'est quelque chose qui est abstrait ou plutôt figuratif ? Sachant que figuratif, c'est assez difficile. Comment on représente, je ne sais pas, des tweets ? C'est quoi une forme qui représente un tweet ? Est-ce que c'est un logo ? Est-ce que c'est quelque chose de plus abstrait ? Donc, toutes ces questions, en fait, vont se poser quand on va essayer de créer une œuvre. Donc, typiquement, si je devais résumer mon job en un slide, c'est ça. Il y a des données, il y a du code, et on essaie de faire un truc joli à la fin. Voilà. Je me mets pas en avant, hein, mais j'espère que les exemples seront un peu plus parlants. Alors, je voudrais commencer par ça. Est-ce que vous connaissez le Montreux Jazz Festival ? C'est pas une question, mais juste à main levée, juste pour voir comme ça. Ok, tout le monde connaît. Très bien. Donc, moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec eux, et c'est très intéressant parce que c'est un festival qui est pas que de jazz, hein, c'est en fait un festival de toutes les musiques, et qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de données. C'est à peu près ça, les données. Donc, 11 000 heures de vidéos. Ça fait plus de 55 ans que ça existe. Il y a beaucoup de captations qui sont faites sur plusieurs caméras, plein de micros, du multipiste. et beaucoup de photos. Alors la base de données est un petit peu plus que ça, donc c'était 2,7 pétabytes de données. Maintenant, c'est à peu près plus que 3. Il y a 3 data centers juste qui servent à stocker ces données, qui sont même refroidis par l'eau du lac, le lac Léman. Donc c'est assez gros. Et il y a même, pour donner la petite histoire, une fibre qui va de Montreux, donc la ville où il y a le festival, à l'EPFL, à l'université, qui est en charge de stocker les données. Donc c'est une connexion directe privée. Donc ça fait quand même 60 km juste pour ça. Donc c'est vraiment, ils y tiennent, quoi. C'est vraiment un bon festival, et il y a même qui est classé maintenant à l'UNESCO. Et du coup, moi on m'avait donné la tâche de, ok, bah voilà, t'as des données, est-ce que tu peux faire quelque chose, que tu peux créer une expérience qui nous permette d'explorer un petit peu cette archive, parce qu'elle est tellement grande qu'en fait on ne sait même pas par où s'y prendre. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie juste d'avoir de la visualisation de données assez classique pour essayer de comprendre okay, comment est distribuée ma base de données. On voit ici que tous les points, chaque point représente un artiste qui a participé au Montreux Jazz. Et si on clique sur un point, on a maintenant la connexion qui est basée sur la similarité musicale entre les artistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire la similarité musicale? Ça veut dire que pour chaque chanson, on doit comprendre le rythme, la mélodie, l'harmonie, les comparer entre elles, et après créer un réseau d'artistes qui est très utile pour tout ce qui est l'ethnomusicologie, c'est-à-dire comprendre l'origine de la musique, comment ça a influencé tel genre est venu à existence, comment elle a été influencée, etc. Donc ça, c'est une petite visualisation de données qui n'est pas du tout à vocation artistique, mais qui est plus pour, comme j'expliquais avant, essayer de comprendre ce à quoi on a affaire. Ensuite, on peut essayer de s'intéresser maintenant au genre de musique. C'est pour ça que je disais au début, le Montreux Jazz, en fait, c'est pas du tout un festival que de jazz, puisque chaque couleur qu'on voit ici représente un genre qui a été qui est joué au festival. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais pas si vous regardez que il y a des genres qui apparaissent en fait que à droite. Donc c'est-à-dire que plus on avance dans le temps comme ça, de gauche à droite, et on voit par exemple un revival tous les 10 ans, tous les 10-15 ans, il y a Kool & The Gang qui est invité, donc du coup on revoit un petit peu de chansons qui ont été jouées, Funky Soul, on voit qu'il y a la naissance du hip-hop, il y a même du métal hein, qui a été joué au Montreux Jazz, donc c'est vraiment loin de simplement du jazz. Et donc là voilà, peut-être qu'on peut estimer que cette visualisation est un petit peu plus esthétique, mais le but encore une fois c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a dans notre dataset. Maintenant, on va s'intéresser voilà, au travail, la visualisation interactive en elle-même. Donc l'idée, c'est de dire, ok, on va prendre maintenant tous les concerts du jazz, donc plus de 56 concerts, et on voit qu'il y a des artistes qui reviennent assez souvent. Quand ils reviennent, ils n'ont pas forcément le même line-up, ça veut dire qu'ils ne viennent pas forcément avec le même bassiste, avec le même chanteur, avec le même batteur, etc. Mais comme c'est une petite communauté quand même d'artistes qui est quand même, même si ce n'est pas que du jazz, centré autour du jazz et du blues, en fait, on se rend compte qu'on peut connecter des artistes entre eux s'ils ont joué sur scène ensemble. Donc, un, deux concerts, ça donne ça. Évidemment, sur tous les artistes et tous les concerts, ça va créer un réseau qui est assez complexe d'artistes. Et voilà, ça donne ça, à peu près. Donc ça donne, c'est à peu près. Et ça, c'est juste une petite partie en fait, du réseau du Montreux Jazz qui est centré autour du jazz, du blues et de la musique latine. Et on voit deux choses. Donc, déjà, il y a une espèce de galaxie qui arrive à converger au centre, et on voit qu'au centre, il y a beaucoup de, connexions. Donc, on peut se poser une question, d'après vous, quels sont les artistes qui sont les plus au centre? Et même si on ne connaît pas leur nom, quel est le genre de musique qui pourrait se retrouver au centre? Donc, par exemple, ici, si je zoome, on a en jaune le gros point, qui est le point le plus central du réseau, B.B. King. Donc, je ne sais pas si vous connaissez B.B. King, tout ce qui est blues. Pourquoi? Parce que bah, la musique en elle-même en fait, amène à la collaboration. B.B. King, vous avez déjà regardé un concert, il invite 6 musiciens et ça dure 3h30 le concert. Et ils ne font que jouer, donc du coup c'est facile d'inviter un guest et du coup il va connecter tous les restes des artistes avec le jazz. Donc là on peut commencer à analyser les données mais avec une forme un petit peu plus esthétique. Mais encore une fois, le but c'était de faire une expérience où les gens puissent aller et pouvoir écouter en même temps. Là, c'est très visuel, mais on ne peut pas écouter la musique, c'est dommage, vu que c'est quand même autour de ça. Donc du coup, l'idée, d'arriver maintenant à transformer ce réseau et à le mettre dans une espèce d'hémisphère qui fait à peu près 7 mètres de diamètre, donc ce n'est pas hyper grand, mais voilà, ça doit donner quelque chose comme ça. Et de pouvoir s'allonger en fait, dedans et explorer cette archive. Donc typiquement, on a un espèce de contrôleur, je ne sais pas si vous voyez très bien avec la lumière, la personne a une espèce de sphère dans la main qui est en fait un accéléromètre et peut arriver à pointer en fait dans la demi-sphère toutes les photos d'artistes et en cliquant sur l'artiste, on va pouvoir charger les titres. Donc je vais essayer de vous faire une petite démo. Donc ça c'est une capture d'écran évidemment de la visualisation, juste pour vous donner une idée. Donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir explorer un peu de manière aléatoire, parce qu'il y a tellement d'artistes qu'on ne les connaît pas. Je clique sur un des artistes, et maintenant je cherche la Muddy Waters, voilà, c'est ça, du blues, tous les extraits en fait de Muddy Waters à travers les années. Et si je clique sur un des titres, je vais pouvoir lancer maintenant la chanson en elle-même. Alors pourquoi c'est en cercle? Parce que c'est pas évident. Les vidéos, elles ont été faites il y a longtemps, elles sont pas sphériques. Donc du coup, on a essayé de couper, de les orienter un peu dans tous les sens pour que, quelle que soit l'orientation dans le dôme, on puisse toujours voir la vidéo. Donc c'était voilà. Est-ce que c'était clair? Voilà. Donc ça, c'était une démonstration. J'espère de. On part des données, on transforme, on fait d'abord de la data vise avec. Voilà, on finit par une expérience interactive. Maintenant, ça va être à vous, parce que je vous ai dit au début, on a fait un petit QR code. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres, où en fait, le livre où on est le héros. Donc, c'est-à-dire selon les choix qu'on fait, on va pouvoir aller sauter d'une page à l'autre. Et maintenant, ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, c'est de faire une conférence comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez, avec votre téléphone, pouvoir voter, et selon vos réponses, purement démocratique, j'irai sur une ou plusieurs directions. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. Je vais vous demander, donc si vous regardez vos téléphones maintenant, de choisir une forme. Donc voilà, il y a trois choix. Et on va voir en temps réel, parce que je ne veux pas tricher. Voilà. Alors s'il y a des, si jamais il y a une égalité, je devrais choisir. Sinon, vous pouvez toujours, comme je disais, éditer vos réponses. Voilà. Bon. Donc a priori, on est d'accord, je n'ai pas triché, vous avez voté, on a choisi le cercle. Donc maintenant, je vais pouvoir, moi, parler d'un des tableaux qui parle du cercle. Donc celui-là, ok, c'est faire, légitime, ok. Voilà, donc je vais vous parler de cette œuvre ici. Et alors, je voudrais, avant d'en parler, juste que vous fassiez l'exercice, comme si vous étiez au musée, on est dans un cinéma. Voilà, je vois ce tableau, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que j'apprécie ou pas? Qu'est-ce que ça pourrait dire? On sait que ça va être des données. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça veut dire que le fait qu'il y a une espèce de gros truc au milieu et des points autour? Et c'est assez difficile comme exercice. Moi, je le connais, évidemment, mais c'est assez abstrait. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des idées, mais on va voir si maintenant ça correspond à la réalité. Maintenant, si je vous montre cette image, est-ce que vous savez ce que c'est? L'accélérateur du sein. Donc, ok, on n'est pas très loin, non, on commence à avoir voilà, un sujet. En fait, c'est pas sur directement sur le CERN, c'est sur, je sais pas si vous vous rappelez de la découverte du boson de Higgs, qui était un événement majeur en science. Et du coup, ça, c'est autour de Twitter, maintenant ça s'appelle X, mais on va laisser Twitter, sur l'annonce officielle, donc toute l'idée de la propagation d'une rumeur autour d'une découverte scientifique, qui est assez intéressante. Donc, je vous explique comment lire ce tableau. En fait, il faut l'imaginer comme une spirale temporelle, donc vraiment tout en haut du bleu ciel, et ça finit à la fin du, je ne sais pas mon laser, mais tout à gauche, et ça s'enroule comme ça. Il faut imaginer que chaque point est un tweet, et ils sont connectés ensemble s'ils ont été retweetés dans les deux minutes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'annonce officielle, elle est faite le matin à 8h du matin, et c'est au milieu de cette... Il y a tellement de points, d'ailleurs, qu'on ne voit même plus, on n'arrive plus à les dissocier, ils sont tous... on dirait presque voilà, une couleur qui a été peinte. Et ce qui est marrant, c'est comment ça se fait qu'avant, il y a déjà des tweets. Il y a des fuites. En fait, il y a déjà des chercheurs qui étaient commençaient à en parler. On l'a trouvé. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'effet boule de neige, on commence à en reparler. Ça crée quand même avant l'annonce officielle, déjà beaucoup d'effervescence. Et ensuite, l'annonce officielle, on a énormément de tweets, plusieurs centaines. Là, c'est juste aggloméré, donc il y a 55 000 points, mais il y a beaucoup plus de tweets que ça qui en parlaient, avec, si on compte tous les retweets. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a, on dirait même deux bananes, en fait, un gros truc et quelque chose qui en dessous. Et ça, c'était l'Europe contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'annonce, elle a été faite en Suisse, Et c'était la nuit pour les Américains. Donc il y avait moins d'Américains qui arrivaient à retweeter, mais on voit quand même que le phénomène, il est mondial et que, voilà, à travers le temps, on a l'Europe, les États-Unis. Et il y a un autre, quelque chose qui est aussi intéressant ici, c'est qu'à la fin, on s'est demandé, on n'avait pas, hein, au début, évidemment, tous ces labels. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Twitter, on ne peut pas facilement savoir si c'est européen ou américain. Nous, on a dû faire du machine learning pour essayer de comprendre d'où venaient les gens, de les classer, etc. Et on s'est rendu compte à la fin qu'il y avait cette espèce de banane rouge. Et c'est 5 jours après, en fait, un journal brésilien qui se réveille un peu tard et qui fait l'annonce de « Ah, ça y est, on a découvert le boson de Higgs ». Avec 7 millions d'abonnés. Et donc, du coup, grâce à le nombre d'abonnés, ça a recréé en fait un nouveau petit phénomène viral et qui a été retweeté quand même pas mal de fois sur plusieurs jours, jusqu'à ce qu'on passe à un autre sujet, que je ne sais pas, Kim Kardashian a un nouveau chien, voilà, on passe à autre chose et Twitter continue sa course. Et en fait, ça, on peut le faire sur quasiment tous les phénomènes de réseaux sociaux. Donc ça, c'était assez intéressant au niveau de la recherche, c'est moi je travaillais là-dedans, pour essayer de comprendre comment se propage une rumeur. Et cette image-là, en fait, elle a été mise telle quelle dans un papier scientifique. Donc c'est pour montrer qu'on n'est pas forcément obligé d'aller hyper loin dans le côté expérientiel et artistique. Celle-là, elle servait à illustrer directement un article scientifique. Voilà. Bon, c'était clair aussi, j'espère que... Donc ça, c'est un exemple. Donc maintenant, on ne va pas aller sur le triangle, puisque... Vous n'avez pas voté pour, donc je vais reposer une nouvelle question maintenant. Vous pouvez déjà voter. On va voir en temps réel. Ok. Ah, toujours. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai déjà fait cette expérience avec d'autres aux États-Unis. Et en fait, il y a des. Selon l'audience, ce n'est pas forcément les mêmes couleurs ou les mêmes formes qui sont choisies. C'est assez, assez curieux. Aux États-Unis, c'est plutôt le rouge. Donc là, je pense qu'il y a quand même une grande majorité pour le bleu. Donc on va revenir là-dessus. Encore une fois, on a tous voté. Okay. Donc je vais parler de ce tableau rapidement. Alors ça, même maintenant, on connaît. Hein, data, on a compris. Ça va parler de données. Rapidement, voilà, Star Wars. On a vu un petit extrait tout à l'heure. Donc, c'est pas un côté dystopique, hein, c'est vraiment plutôt bon enfant ici. L'idée, c'était juste de montrer en fait quelle est l'étendue de l'univers de Star Wars. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question avant Disney et le saccage de Star Wars. Avant, il y avait des livres. Est-ce que vous savez juste comme ça combien de livres ont été écrits sur Star Wars? Livres et comic books, etc. 850. C'est juste, en fait, l'univers fictionnel le plus grand jamais créé. C'est plus de 40 ans qu'il est développé et qu'il a été détruit en 5 ans. Mais à l'époque, il y a toujours d'ailleurs un site qui s'appelle le Wikipédia, qui est un Wikipédia vraiment dédié à Star Wars. Et je ne sais pas si vous voyez ici, tout en haut à droite, quand j'ai fait cette capture d'écran, il y avait déjà 155 000 pages qui ont été créées. Donc c'est vraiment grand. Tout est référencé par des fans. Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était d'essayer de comprendre, en fait, d'analyser ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on arrive à développer des outils qui marchent pour un univers fictionnel, on peut les appliquer à notre vrai univers. La plupart du temps, qu'on veut essayer de comprendre ça, ça s'appelle les humanités digitales. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. En anglais, digital humanities. Et le problème, c'est que c'est compliqué, l'histoire, quand c'est écrit en latin avec des manuscrits, que quand on les déroule, on les casse et qu'il faut vraiment faire de la physique pour essayer de les lire. Donc, c'est plus facile de travailler sur des données qui sont déjà numériques comme ça. Mais c'est vraiment la même idée. Essayer de comprendre ici, en regardant la biographie des personnages, comment ils sont connectés entre eux et créer, encore une fois, un réseau de tous les personnages de cet univers et d'essayer de comprendre en fait comment ils sont connectés. Évidemment, les couleurs ici, bleu, les gentils, rouge, le côté obscur. Donc c'était, ça, pour moi, c'était une révélation plus personnellement parce que c'est un des tableaux que j'avais fait, enfin, même pas un tableau à l'époque, j'avais juste fait ça comme un article de blog et ça avait été beaucoup repris à l'époque. Et c'est en fait depuis ce tableau-là que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de créer des œuvres d'art à partir des données. C'est pour ça que j'aime bien en parler, mais c'est vous qui avez choisi le bleu, c'est pas moi. Alors on va avancer un petit peu. Pareil, je vais vous poser une autre question. L'idée, c'est évidemment pas de trop spoiler, donc les questions sont un peu vagues. Alors c'est peut-être une réflexion psychologique, est-ce qu'on est plutôt ouvert, plutôt fermé, je sais pas. Bon, je pense que là c'est assez clair aussi. Voilà. Alors ça, c'est intéressant, je pense que ça va vous plaire, enfin, j'espère. Parce que c'est là-dessus, c'est sur ce réseau social que vous connaissez tous. Tout le monde, enfin j'espère, tout le monde ici est connecté sur LinkedIn. Ça, c'est même pas dans un cadre académique, c'était vraiment une commande d'une entreprise en fait, qui m'a demandé, tiens, est-ce que tu pourrais analyser le réseau de mes collaborateurs sur LinkedIn pour essayer de comprendre est-ce qu'on, quand je recrute quelqu'un, donc ça, typiquement, c'était demandé, anonymisé, etc., mais aux collaborateurs d'exporter leurs contacts, ça c'est anonymisé dans l'entreprise, évidemment, chacun pouvait choisir ou pas de participer, et après de voir en fait si on arrivait à lier tous les collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que quand je recrute quelqu'un, est-ce que ça agrandit mon réseau ou est-ce qu'en fait on est tous dans le même milieu et qu'en fait on se connaît déjà tous. Donc, ça, en gros, est-ce que ça vaut le coup de prendre des collaborateurs de l'étranger ou pas, ou finalement c'est mieux, comme ils connaissent mieux le business, de recruter entre nous. Ça c'était vraiment l'idée au début et évidemment on ne savait pas la réponse. Donc en fait, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, il n'y avait que 4% des relations qui étaient en commun entre les gens à l'époque. Donc en fait, c'était hyper intéressant, juste pour la communication, de dire, bah oui, ça vaut le coup de prendre des employés externes parce qu'ils amènent aussi tout leur réseau et on n'est pas du tout consanguin en fait. Et surtout que c'est dans une boîte de communication, donc on pensait que tout le monde changeait un petit peu de boîte comme ça, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'était un tableau que j'aimais bien, juste pour montrer ces stats. Voilà. Alors, maintenant, juste je vais boire un petit coup. Je vais essayer de changer de sujet, parce qu'on a parlé beaucoup de réseau. Maintenant, je voudrais parler un peu d'intelligence artificielle, même si je n'aime pas vraiment le terme. Alors, c'est hyper à la mode, donc j'étais obligé en fait d'en parler un petit peu. Et je vais vous montrer juste deux choses que j'ai faites. Ça, c'était déjà à l'époque, juste pour vous montrer la différence de comment la technologie a évolué en 4 ans. Donc ça, c'était un chien mélangé avec un bison avec une boule de billard à droite, à l'époque. Et là, c'est un truc que j'ai fait avec Dali, que vous connaissez de OpenAI, juste avant. Et c'est en fait plus proche de la vision de ce que je voulais, un chien mélangé avec un bison rond. Donc, ça, je pense que ça vous parle, tout le monde ici. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent ChatGPT ici un petit peu tous les jours? Tous les jours? Une fois par semaine? Jamais? Il y a quand même des gens qui l'utilisent jamais. Donc ça, après, je pense qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas parce que c'est, pour l'entreprise, c'est compliqué, on peut exfiltrer des données. Je ne veux pas parler, encore une fois, du côté dystopique, mais c'est possible d'exfiltrer des données assez facilement, en fait. Je pourrais en parler peut-être après en off. Mais très utile pour beaucoup de choses. Maintenant, évidemment, ça, c'était une comparaison entre 2019 et 2023. Mais on peut faire, je ne sais pas si des choses qui sont beaucoup plus proches du côté dystopique. Il fallait quand même que je mette 2-3 images pour faire un petit peu peur. Mais on imagine, on est en 2023. Qu'est-ce que ça sera dans 3 ans? On arrive déjà, je ne sais pas si vous avez vu, depuis 2 semaines, il y a 2 services qui ont été lancés. On arrive à animer maintenant des images pendant 4-5 secondes. Ce n'est pas énorme en termes de durée. Mais c'est très facile d'imaginer que dans 4-5 ans, des films entiers, ici dans un cinéma, soient complètement créés avec de l'intelligence artificielle. Et en fait, on pourrait même avoir des films qui soient personnalisés. C'est-à-dire, je me raconte une histoire, ChatGPT me l'écrit, et elle va générer toutes les images et le film. En fait, on aura peut-être un Netflix qui va sortir où on aura nos propres films selon nos envies. Je ne pense pas que ce soit de la science-fiction, c'est d'ici 5 ans maximum. La preuve, vous avez vu la différence entre 2019 et 2023, et maintenant on arrive à faire ça, qui sont des photos réalistes quasiment ou stylisées. Et ça, c'est fait avec vous pouvez tous le faire avec votre téléphone hein, directement. Alors, je vais parler maintenant d'un autre exemple qui a attrait à l'intelligence artificielle, mais un peu plus ancien, parce que je vais vous montrer qu'on a l'impression qu'en fait, ça, depuis ChatGPT, en fait, il n'y a que ça qui existe, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui bossent là-dessus depuis des années, même des artistes, qui commençaient déjà aussi à l'époque à travailler, même si évidemment la qualité visuelle est moins photoréaliste, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est pas quand même aussi, ça n'a pas de la valeur, notamment pour la qualité, on va dire, historique, même si c'est que 4 ans en arrière. Donc voilà, on a beaucoup de marins aujourd'hui, typique de Lyon, je pense. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais fait en 2019, qui était présenté, c'est à Paris, c'est le P7, c'est en face de la bibliothèque François Mitterrand. Et c'était une œuvre qui était assez abstraite, qui était justement la même technique que le chien en forme de balle de bowling, là, mais qui était plutôt, du coup, abstrait. qui veut rien dire. Mais à l'époque, on trouvait déjà, donc il y avait à la fois quelque chose qui était assez marin, plus des paysages qui changeaient. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait beaucoup de vidéos qui sortaient à l'époque. En fait, cette technique, elle n'est pas utilisée maintenant. Parce qu'on utilise les GAN, donc c'est, il permet de faire des transitions hyper douces entre toutes les images qui ont l'impression que ça morphe. Et en fait, on n'arrive pas encore à le faire avec les nouvelles techniques de, où on écrit un génère-moi un cochon vert. Et en fait, ça ne marche pas pour l'instant. C'est une autre technique qui est plus ancienne. Et il y a des chercheurs qui essaient justement de mélanger les deux pour qu'on puisse faire des transitions très, très fluides entre en fait, n'importe quel objet ou personnage qu'on arriverait à créer. Voilà, je voudrais juste avancer un petit peu, parler des maths, parce que c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. Et en fait, tout ce qu'on voit ici, il ne faut pas oublier, l'intelligence artificielle, c'est que des maths. C'est juste des multiplications de tableaux, en vrai. Et tout ce qu'on voit, même toutes les formes, la géométrie, etc., c'est toujours des maths. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, ou je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, à l'école, c'était quelque chose que moi, je n'aimais pas trop, parce que c'était mal expliqué. Et donc, j'aimerais bien essayer juste rapidement de parler, je pense que tout le monde connaît les fractales ici, c'est quelque chose qui était hyper à la mode aussi dans les années 80-90, et je ne suis pas sûr que, en fait, ça c'est le fractal de Mandelbrot, où en fait on peut zoomer à l'intérieur d'un espace mathématique à l'infini, et en fait quand on pense à des fractales, on pense tout de suite à ça, mais une feuille, un cristal, c'est aussi une fractale, un rythme cardiaque c'est une fractale. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Donc, je vais vous demander encore une fois de voter. Que j'aimerais essayer de vous montrer, c'est qu'on peut aller. Les logiciels, en fait, ils ont beaucoup aussi évolué. On peut aller plus loin que simplement des formes très standards. Et voilà, vous montrer quelques exemples. Ça, c'est aussi une fractale. On voit, on répète la forme. Qu'est-ce que c'est une fractale? C'est vraiment un pattern qu'on arrive à répéter, quelle que soit l'échelle, en fait, dans l'infiniment petit ou dans le très grand. Un autre exemple aussi. Ça, c'est une fractale qui est un peu bizarroïde, mais qui se répète de chaque côté. Donc, en fait, on peut créer pas mal de formes qui sont bien éloignées de ce qu'on pourrait imaginer avec cette technique. Et je trouve que c'est... Alors, le contraste n'est pas hyper bien ici, mais que c'est assez intéressant aussi à explorer. Et j'espère que... Enfin, moi, si on m'avait montré ça quand j'étais en quatrième, peut-être que ça m'aurait intéressé un petit peu plus les maths. Bon, je me suis rattrapé après, mais c'était dur. Donc, Et voilà. Alors maintenant... Pour finir, j'aimerais vous parler encore d'un exemple, mais il va falloir aussi voter, parce que là, c'était soit des vidéos, soit des images, mais comme je vous ai teasé un petit peu avant, on peut aussi faire quelque chose qui soit interactif. Et en vrai, maintenant, toute mon activité, elle est vraiment orientée autour de ça, notamment pour les entreprises. Donc, je voudrais vous demander de choisir deux catégories, enfin, entre une ou une autre catégorie. Très bien. Alors, l'élégance. Donc là, c'est quelque chose qui est interactif, donc je vais essayer de le montrer directement avec mon ordi ici. Donc ça, c'est un travail que j'avais fait pour Google, pour la Fashion Week à Milan. Et en gros, l'idée, ce qui était intéressant, c'est que, un, ça c'est un site web, et qu'il y avait à la fois la partie du web et la partie physique. Donc je vais vous montrer après quelques photos. Donc avec la même technologie, on arrive à faire un cube interactif où il y a 1200 marques de soit de luxe ou de vêtements, en fait, connectées entre elles, parce qu'elles partagent soit les mêmes produits, en fait, soit elles viennent de la même localisation géographique. Donc on a d'abord un réseau de ces marques, et ensuite, quand on clique sur une marque, on a une visualisation de en fait, la présence de cette marque sur le web. Donc comment ça a été fait, c'est assez, je pense, intéressant. Ici, on a, en lisant en fait, ces particules, comment elles sont réparties, on arrive à comprendre, tiens, si je tape sur Google le nom de cette marque, est-ce que ça va être plus, qu'est-ce qui va sortir ? Est-ce que c'est plutôt les partenariats ? Est-ce que c'est les stores ? Donc ça, c'est la partie géographique. Est-ce que c'est les collections de produits ? Est-ce que c'est la partie de la sustainability, donc la partie un peu verte, qui n'est pas hyper développée pour cette marque, par exemple ? Et on a ça, évidemment, pour toutes les marques, avec des transitions comme ça. Et on peut chercher. Donc ça, c'était... Comment créer quelque chose comme ça ? Il faut imaginer 10 millions de résultats sur Google. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher pour chacune des marques à peu près 10 000 résultats. Ensuite, évidemment, les résultats, ils arrivent dans toutes les langues. Détecter la langue, traduire en anglais pour avoir un corpus qui soit cohérent, faire une détection d'analyse, en gros, de sentiments pour savoir si la news, elle est positive ou négative. Vu que ça s'était fait pour un client, il n'était pas hyper content qu'on montre que des chaussures étaient faites par des enfants au Vietnam. Donc, il fallait essayer d'enlever aussi ces résultats, les filtrer. et arriver à avoir après, donc pour chaque marque, un dataset qui soit assez propre. Donc ça fait à peu près 5 réseaux de neurones différents. Utiliser un calculateur pour arriver après à comprendre comment on organise ces catégories. Je ne sais pas si vous avez vu ici, il y a à peu près 8 catégories ou 7 catégories. Et donc du coup, comment on fait pour choisir et les détecter automatiquement? Bah ça utilise aussi un autre réseau de neurones pour essayer de clusterer, grouper en fait les notes, toutes les notes, tout ce qui en fait toutes les infos qu'on aurait autour des marques. Et donc comme je disais, donc ça c'est la partie qui était vous pouvez même c'est en ligne, hein, n'importe qui peut aller dessus. Et il y a une partie qui est plus aussi de l'événement physique. Donc ça c'était, je reviens ici, je vais vous montrer quelques photos. Là c'était encore un petit peu différent. Puisque en fait, ils ont demandé d'organiser un événement, comme je disais, à Milan. Et là, on a un cube qui est en fait une visualisation du site que vous venez de voir. Mais maintenant, physiquement, on a 4 colonnes où chacun avec un iPad peut taper le nom de la marque et d'avoir la visualisation. Et un cube aussi au milieu interactif qui permet de faire en gros ce que j'ai montré avec ma souris. Est-ce qu'on ne se rend pas bien compte de la taille de ce cube? Alors, je ne suis pas hyper grand. Mais ça faisait à peu près 2,50 m, 3 tonnes le cube. 1,5 tonne juste pour les écrans de LED et 1,5 tonne de structure. Donc c'est quand même une grosse installation, sachant qu'il y avait aussi une projection, c'est-à-dire que quand on était vraiment en face, on avait l'impression qu'on pouvait voir à l'intérieur du cube, évidemment pas sur les côtés. Et ce qui est, je trouve intéressant, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être on pourra en parler après, qu'avec une même technologie qui était pour le coup web, on arrivait à avoir 2 visualisations pour créer des événements et en même temps garder le côté en fait cette trace en ligne. J'aurais juste voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vais vous faire réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous de dire tiens, est-ce que je peux donner, j'ai des données, je travaille dans une entreprise, est-ce que je peux prendre mon organigramme, est-ce que je peux prendre une base de données, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi à essayer de développer cette technologie pour l'événementiel, pour de la communication, pour une présentation de produits. En tant que particulier, on ne pense jamais en fait, mais on crée beaucoup de données. Mes notes, mon sport, je vais faire beaucoup de marathons par exemple, les conversations WhatsApp, bêtement ou n'importe quel téléphone, on peut les exporter et créer un réseau de conversations, c'est assez intéressant, voir qui échange les messages, comment ça se groupe. Évidemment, tout ça doit être anonymisé, pour pas qu'il y ait de problème. Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Il y a beaucoup de logiciels en fait, qui permettent de capturer un petit peu ces données, mais on n'en fait rien. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce que je peux les exporter et en faire quelque chose qui soit, en fait, qui me raconte une expérience et que je puisse en partager parce que je connais l'histoire en fait, de ces données. Alors pour finir, je vous pose juste une dernière question que vous pourrez répondre après. C'est un petit feedback. Et puis sinon, je voudrais juste terminer par cette présentation, cette petite vidéo qui était un travail qu'on avait fait pour une montre où on capturait justement l'activité physique, le sommeil, et qu'on essayait de visualiser. Donc ça, c'est 3 personnes qui ont chacun cette montre connectée, et on arrive sur 8 jours, en fait, donc chaque cercle, il y a 8 cercles, à capturer ici la partie du sommeil. Il faut voir ça comme une horloge de 24 heures, minuit en haut, midi en bas, 6 heures du matin, 6 heures du soir. Et de voir en fait comment on dort. Plus c'est foncé, plus on dort profondément. Et dans la partie éveillée, plus c'est foncé, plus on est actif. Donc en gros, est-ce que j'ai fait du sport? Est-ce que j'arrive à bien dormir? Et comment on peut visualiser ça sur... c'était 8 jours, mais en fait, faire ça sur n'importe quand, n'importe quel monde connecté peut vous donner ça. Et là, pour la petite histoire, c'est intéressant de voir cette personne avait beaucoup de mal à s'endormir. D'ailleurs, ça se voit parce que c'est très clair. Et qu'à la fin, le seul jour où elle a fait du sport, avec le rouge... elle a un sommeil beaucoup plus profond et elle arrive à se lever à 10-11 heures du matin. Donc c'est typiquement ce type d'histoire qui intéressait la marque et on a fait le lancement de produits là-dessus. Voilà, merci beaucoup pour vos attentions et puis j'espère si vous avez des questions, je suis là. Merci.